Ce mot de temps ne dit rien de ce qu'est le temps. Son usage a beau être des plus fréquents, il ne mène à nul éclaircissement de la réalité qu'il prétend dénommer. En somme, il y a un écart entre le dire et le dit. Ce mot ne nous dit pas ce qu'il dit. Il nomme, certes, mais ne dénomme point, au sens où il ne suffit pas de le prononcer pour que la réalité du temps se fasse aussitôt jour dans une sorte de lumière révélatrice. Étienne Klein est ce soir notre invité pour son dernier ouvrage intitulé « Le temps entre parenthèses qui passe, point d'interrogation ». Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi, nous allons commencer en musique avec Norah Jones, « Don't Know Why ».
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in. Road alone.
Quel rôle a joué le hasard dans votre propre existence, Étienne Klein ?
Alors, on ne sait jamais. Bon, d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si on peut parler de hasard ou simplement d'un destin qui se réalise par des rencontres, par des occasions qu'on apprend à saisir. Mais en ce qui me concerne, il y a eu plusieurs petits chocs dans mon existence qui ont engendré des bifurcations.
Par exemple ?
Par exemple, quand j'ai compris ce qui se passe quand on boit un verre de jus d'orange avec une paille. Je devais avoir 14 ans. Et je croyais, parce que j'avais entendu dire que la nature a horreur du vide, c'est une phrase qu'on trouve chez Aristote, qui a été largement commentée. Et donc je me disais, c'est bizarre, quand on aspire du jus d'orange dans une paille, la bouche est bien au-dessus du liquide qu'on aspire. Et je pensais que, en fait, on crée un vide dans la paille en aspirant. Et la nature, qui est hors du vide, demande au liquide de bien vouloir monter. Ce qui est bizarre, parce que ça correspond à un phénomène qui s'oppose à la gravité. Et je pensais donc que l'horreur du vide, l'horreur que la nature éprouve pour le vide était comme un antidépresseur. C'est-à-dire le liquide vient empêcher le vide de se manifester dès que l'occasion lui en est donnée. Et quand j'ai compris par mes lectures ou par ce que m'a dit un professeur, je me souviens plus très bien, que en fait Galilée, puis Torricelli, puis Pascal au XVIIe siècle ont montré qu'en fait c'était l'effet de la pesanteur de l'air, de la pression atmosphérique qui était responsable du fait que le jus d'orange monte dans la paille. En fait, quand on aspire le jus d'orange, qu'on aspire l'air qui est dans la paille, on crée une dépression. Et le poids de l'air sur le liquide du verre, eh bien, permet par une force qui va du haut vers le bas que le liquide monte dans la paille où on a créé une petite dépression. Et ce renversement d'explication m'a complètement fasciné. Et après, grâce à des lectures de Bachelard, j'ai compris qu'en effet, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est accepter des explications qui ne sont pas spontanées et qui viennent contredire l'interprétation première qu'on peut donner des phénomènes qu'on observe.
Donc, savoir ignorer, c'est la mère de toutes les inventions. Cette connaissance, enfin, en tout cas, du croire, savoir de l'ignorance.
Croire savoir, c'est un piège. Ignorer qu'on ignore, c'est vraiment savoir. Parce que pour ignorer qu'on ignore, il faut déjà tout savoir.
Donc, aller forcément dans des terra incognita.
Ah, pas seulement. Je pense que, justement, il y a des choses qu'on a comprises grâce à des stratagèmes intellectuels qu'ont mis sur pied des génies qui ont su trouver des moyens de faire en sorte que le monde tel qu'on l'observe décoïncide avec ce qu'il nous montre. Les lois physiques depuis Galilée, depuis la physique moderne, sont des lois qui expliquent les phénomènes mais qui en même temps contredisent au premier abord l'observation courante. Pensez à Galilée qui justement a compris la loi de la chute des corps dans le vide. Il comprend que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. À une époque, on ne sait pas faire le vide. Et on discute d'ailleurs de son existence, de façon assez farouche. Et donc, il énonce une loi qui correspond à une situation que personne n'a jamais observée. Il a trouvé un moyen de la trouver en faisant un pas de côté par rapport à ce qu'on peut déduire de l'expérience. Il a fait une sorte d'expérience de pensée qui lui a montré que si on pense que tous les corps tombent à des vitesses qui dépendent de leur masse, on aboutit à des contradictions. Donc ils tombent à la même vitesse tous, quelle que soit leur masse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et ensuite, il faut interpréter à partir d'une loi qui contredit ce qu'on voit les phénomènes pour que ça coïncide à nouveau, que l'explication permette de rendre compte de phénomènes que la loi explique tout en les contestant.
Aujourd'hui, où le complotisme, hélas, sévit, pensez-vous que les certitudes scientifiques soient réellement établies dans nos têtes?
Pas dans les têtes de tout le monde. Je pense qu'il y a en effet un défi, parce que les mêmes canaux de communication font circuler des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des faits, des analyses, des fake news. Et les statuts de ces différentes choses se contaminent mutuellement. Les connaissances sont parfois interprétées comme des croyances, les croyances comme des connaissances, et donc ça crée une certaine confusion. Et moi, je crois encore aux vertus de la pédagogie, de l'explication, mais je pense qu'en effet, la science est victime, est une des premières victimes d'une crise de la patience. C'est-à-dire qu'une connaissance scientifique, elle a mis du temps à s'élaborer, et si on ne sait pas comment elle est devenue une connaissance dans l'histoire des idées, on a tendance à la traiter comme une croyance. Par exemple, tout le monde sait que la Terre est ronde. Mais qui sait dire comment on l'a su dans l'histoire des idées? Quand, avec quels arguments, quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle était plate? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'elle était ronde? En fait, il y a très peu de gens qui ont cette connaissance de leur connaissance, de sorte que le statut de la connaissance est fragilisé dans un monde très très communicant où circulent toutes sortes d'informations contradictoires.
C'est peut-être l'histoire des sciences qui n'est pas assez enseignée à l'intérieur de notre système éducatif.
Sans doute, mais l'histoire des sciences est tellement vaste qu'on voit pas très bien comment on pourrait l'enseigner. Moi, ce que je propose plutôt, c'est que tout au long du parcours scolaire, à quelque niveau qu'on soit, maternelle, primaire, secondaire, une fois par an, le professeur raconte en détail l'histoire vraie d'une découverte. Pas la vulgate, pas la légende, mais l'histoire vraie, quels étaient les arguments qui ont fait qu'on a compris que la Terre tourne autour du Soleil, ou que la Terre est ronde, ou que l'atome existe, pour qu'on comprenne comment, à un moment donné, les opinions, les commentaires, les analyses ont convergé vers une connaissance qui est devenue objective, non pas parce que ceux qui l'ont proposé étaient eux-mêmes objectifs, mais parce que le système de discussion, les arguments théoriques, expérimentaux, on finit par aboutir à une forme de conclusion qui n'est jamais complètement définitive, mais il y a quand même des choses qu'on ne remet plus en cause. On ne remet pas en cause la rotondité de la Terre, ni l'existence de l'atome.
Le doute et le tourment vous ont souvent accompagné, notamment à la fin de votre adolescence, Étienne Klein. Tout n'a pas été facile pour vous. Vers l'âge de 20 ans, vous faisiez des tas de petits boulots pour continuer vos études et vous avez eu, je crois, ce qu'on appelle une crise existentielle. À ce moment-là, comment se présentait votre avenir ?
Alors écoutez, je me souviens pas de ça. Une crise existentielle ?
Oui.
Non, j'étais dans une école d'ingénieur et je ne savais pas trop quoi faire puisque je n'éprouvais de passion pour aucune des disciplines qui m'étaient enseignées. J'étais intéressé, mais pas passionné. Et puis, en effet, je donnais des cours de toutes sortes de choses en prison. Mais du coup, j'avais besoin d'argent, puisque c'était pas des cours rémunérés. Et j'avais cherché un stage d'été le plus chèrement rémunéré. Et la chance, le hasard, a fait que je suis allé au CERN.
Alors,
le grand laboratoire de physique des particules qui est installé à Genève.
Et vous avez vu, expliquez-nous ce que vous
alors,
avez
j'ai
vu.
J'ai vu deux choses qui m'ont marqué.
Physiquement.
Alors d'abord, à l'époque, il y avait une grosse machine qui s'appelait le SPS, qui était un accélérateur de 6 km de circonférence, qui est tout petit par rapport au LHC d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la plus grosse machine dans laquelle on faisait circuler des protons. Et puis on tentait aussi de faire circuler des antiprotons dans l'autre sens pour faire des collisions à très haute énergie.
Et ça
qui permettrait
voit.
De mettre en évidence une particule qui s'appelait le boson intermédiaire.
Ça se voit tout ça. Alors,
en fait c'est un tunnel, oui, c'est un tunnel dans lequel on a installé un tube circulaire de 6 km, dans lequel on a fait le vide et dans lequel circulent des protons à très grande vitesse. Et un des physiciens qui nous expliquait tout cela nous disait qu'en fait, ces collisions réchauffaient le vide, mettaient de l'énergie dans le vide quantique et faisaient sortir des particules qui étaient initialement virtuelles et qui d'un coup devenaient réelles. Ça m'avait complètement fasciné et ça me rappelait une phrase de Blaise Pascal dans un texte qu'il avait adressé au Père Noël. Alors le Père Noël, c'est pas...
Il y croyait peut-être,
non, non,
lui.
C'est pas le Père Noël des sapins, c'est le révérend Père Noël.
Ah, pardon.
Qui était le recteur de la Compagnie de Jésus, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La plénitude du vide ». Et Blaise Pascal, qui lui croyait au vide, contrairement à ce jésuite, lui avait écrit une longue lettre qui se terminait par cette phrase « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Et j'avais l'impression que cette expérience qu'on nous montrait était la démonstration qu'il avait raison. Et ensuite, on est remonté à la surface, puisque le tunnel est évidemment sous terre, dans un monte-charge. On était une quinzaine d'étudiants venus de toute l'Europe. Et au moment où les portes du monte-charge se referment, il y a un gros physicien qui rentre. Du coup, ça déclenche une alarme, parce qu'il y a une surcharge. Et nos regards se tournent vers lui pour lui signifier qu'il serait bien qu'il descende, parce que c'est lui qui a créé la surcharge. Et à ce moment-là, il reste en place et nous dit « When I say yes, then press ». Quand je dis « oui », vous appuyez sur le bouton. Donc il saute en l'air. Quand il est à son altitude maximale, il dit « yes ». Quelqu'un appuie sur le bouton, le monte-charge décolle et on a pu atteindre la surface grâce à ça. Et je me suis dit « quand même, ces physiciens, c'est des gens incroyables, je vais en faire partie ».
Mais vous ne dites pas tout, Étienne Klein, parce que quand vous êtes remonté de votre monte-charge, il fallait transgresser votre propre corps. Vous êtes un addict de plusieurs choses, et particulièrement d'un sport dont va vous parler Alain Mimoun. C'est une archive du 29 juillet 2004.
Même ma femme ne savait pas si j'allais faire le marathon. Hein. Un secret complet. Hein. J'ai fait le 10 000, j'étais le seul d'ailleurs marathonien à avoir fait le 10 000. Je finis 9 ou 10e, je ne me rappelle pas. Et le lendemain, devant tout le monde, je me tape 35 km d'affilée. Ah, tous les journalistes là-bas, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, celui-là ? Qu'il a son âge.
Vous partez, il y a un monde fou hein, sur le bord de la route. Il fait
500 000 personnes. Parce que c'était un aller-retour sur autoroute. Et de chaque côté de l'autoroute, c'était plein de monde. Il faisait mauvais pendant 3 semaines et ce jour-là, fantastique. Ciel immuable, bleu, 40 degrés, inimaginable. Même du temps des Grecs, on n'a pas vu un marathon comme ça. À un moment donné, au 32e kilomètre, un coup de marteau. J'avais un mouchoir qui pesait une tonne. Hein. C'était le mouchoir de ma femme. Je me rappelle, il pesait. Je l'ai enlevé comme ça, je l'ai jeté. C'est une petite blonde qui l'a ramassé. Il me l'avait dit, ça te fait. Il m'a dit, il ne faut pas connaître le marathon. C'est pas... Comme il avait été champion olympique, lui. Il savait. Il m'a dit, il ne faut pas connaître le marathon. C'est... Il faut être comme ça. Jusqu'à 5 km de l'arrivée, il y avait les motards australiens qui m'attendaient là. Oh là, Alors je pense à ma maman, à ma femme qui venait d'accoucher. Puis alors j'entame le sprint de 400 mètres, 1 minute 6 secondes au dernier 400, attention. Hein. Et à 100 mètres de l'arrivée, je me retrouve comme un voleur comme ça, parce que des fois il y en a qui sont battus. Hein. Mais là, puis je coupe le fil.
Alors c'est Alain Mimoun qui racontait son marathon de 1956 et vous en 2019, vous continuez, Étienne Klein, le marathon ?
Non, je fais pas de marathon, je fais des trails, je cours
c'est
en montagne. Moi je cours plus sur route parce que je m'y ennuie un peu, j'aime bien quand ça monte ou quand ça descend. Mais
ah mais c'est encore plus dur ?
Oui c'est plus dur, c'est plus long, mais c'est pas, je sais pas si c'est plus dur, c'est beaucoup plus long, ça peut durer 30 heures, 40 heures, mais on se met jamais dans le rouge, contrairement au marathon.
Mais on pourquoi est... cette envie de dépasser vos propres limites, c'est pour essayer de mieux penser pendant que vous courez ?
Non, par définition, on les dépasse jamais. Par contre, on s'en approche, on les fréquente, on les titille. Et en fait, on ne peut pas, sans avoir tenté la chose, connaître l'endroit où elles sont. Donc, c'est pas du tout pour dépasser ses limites, c'est pour faire une sorte d'expérience singulière avec soi-même.
Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même, Étienne Klein ? On a l'impression que vous faites tout, finalement, de manière un peu décalée. Je parle de votre thèse, par exemple, que vous avez fait à quel âge ? 40 ans,
thèse de philo à 40 ans. Bah, je sais pas quoi dire. Non, j'ai l'impression que ça se fait au moment où ça doit se faire. En tout cas, là, si on veut parler de l'expérience physique, c'est-à-dire les courses longues, l'endurance... J'aime beaucoup les sports d'épuisement, plus que les sports où il y a un arbitre et un terrain.
Ça a à voir avec la pensée du noir de la matière.
Le vélo, le fait
de penser l'impensable.
Ou de faire l'expérience de la résurrection. Dans un trail, on fait l'expérience de la résurrection. C'est-à-dire qu'on peut être complètement épuisé, penser que c'est la fin, qu'on doit abandonner, et puis, sans qu'on comprenne bien pourquoi, il se passe des phénomènes qui font qu'on retrouve une certaine forme de pétulance, alors même qu'on continue à faire l'effort qui nous a fatigués. Et donc on peut, par effet tunnel, passer de la grande fatigue à un état de plus grande énergie, et c'est assez jouissif. On passe par des états de conscience, comme on dit, qui sont à mon avis très anciens. Nos ancêtres néandertals, par exemple, avaient des territoires de chasse qui faisaient 100 km de diamètre. Donc ces gens faisaient des ultra-trails de façon hebdomadaire. Et je pense qu'on a gardé cette capacité à courir longtemps, sans se mettre dans le rouge, et qu'on l'a perdu, on redécouvre ses potentialités. Il y a énormément de gens qui font ces courses. Il y a même de plus en plus de demandes pour les inscriptions, ce qui pose des tas de problèmes d'ailleurs. Mais le niveau monte chaque année... Le nombre de personnes qui terminent en bonne forme avec des temps remarquables augmente.
Vous voulez ressusciter à vous-même ?
Mais non, c'est une façon de vivre et non pas de ressusciter.
Bah vous avez employé le mot résurrection.
Oui, non, c'est symbolique, c'est-à-dire une résurrection du corps, mais pas de l'âme. C'est-à-dire le corps, comme le disait Murakami, ce grand écrivain japonais qui pratique non pas le trail mais les 100 km, il a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Autoportrait de l'auteur en coureur de fond ». Il a cette phrase qui résume tout, il dit « La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle.
Ben » Moi, je citerai Franz Kafka, que vous citez d'ailleurs en exergue d'un de vos livres. Cette citation remarquable « Dans le duel entre le monde et toi, assiste le monde. »
Oui, ben alors ça, je l'avais mis ça en exergue d'un chapitre sur la mécanique quantique. Et qu'en effet, la mécanique quantique nous dit des choses très spéciales sur ce qu'on peut penser de la réalité. Et il faut essayer de deviner ce que les équations de la physique, quantique en l'occurrence, nous diraient du monde si elles pouvaient parler. Si les équations pouvaient parler du temps, de l'espace, de la matière, qu'est-ce qu'elles nous diraient ? Et il faut donc les assister puisqu'elles ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est le sens que je voulais donner à cette phrase de Kafka. Mais je pense aussi que nous sommes faits physiquement pour des efforts prolongés. Nos ancêtres les accomplissaient. Moi, j'avais découvert en lisant les archives de la mairie de Chamonix qu'au XIXe siècle, les Chamoniards allaient vendre les produits de leur récolte à Genève, à pied. Ils descendaient l'arbre, 80 km, 85 km, dans la journée, vendaient le lendemain et revenaient le surlendemain. Ils faisaient ça de façon hebdomadaire. Et donc, on n'est pas du tout fait pour rester assis 8 heures par jour sur une chaise devant un écran.
Mais épuiser le corps à ce point-là, d'ailleurs, je vous soupçonne de faire des stages de jeûne, c'est très à la mode.
Pas du tout.
Non ?
Non.
Vous me rassurez.
Jamais. Mais épuiser, la vitesse à laquelle on récupère de ses courses est absolument incroyable. Deux jours après, on est en pleine forme et dans le mois qui suit, on est encore habité par des espèces de substances endorphines, analgésiques, euphorisantes qui font qu'on passe quelques semaines très agréables. Pas du tout fatigué. Si tout s'est bien passé.
Réincarné, quoi.
Revitalisé.
Je vous soupçonne aussi d'aller jusqu'aux propres limites de votre propre corps pour essayer de comprendre ce qui reste incompréhensible, comme cette question que vous nous posez, le monde fait-il bloc avec lui-même ?
Ça, c'est une question, en effet, qui a tourmenté les physiciens depuis un fameux débat entre Bohr et Einstein à propos de la mécanique quantique. Einstein avait vu que si la mécanique quantique est complète, comme on dit, c'est-à-dire si elle nous dit tout ce qu'on est en droit de capable, tout ce qu'on est en droit de connaître d'un système physique est bien inséré dans le formalisme, alors ça aboutit à des conclusions qui lui semblaient inacceptables. Par exemple, deux particules qui ont interagi dans le passé restent corrélées très fortement, quelle que soit la distance qui les sépare. Et ça l'étonnait beaucoup, et il en avait déduit que cette situation que les équations impliquaient était impossible. Et il en avait déduit donc que la mécanique quantique ne contenait pas toutes les informations qu'on est en droit de collecter à propos d'un système physique. Puis la suite de l'histoire lui a donné tort, même si c'est lui qui a vu cette implication de la physique quantique. Et on parle de non-séparabilité ou d'intrication quantique. C'est un phénomène très étrange qui montre que même à distance, des particules qui ont interagi restent corrélées comme si elles ne faisaient plus qu'un seul système très fortement intriqué.
Mais puisque vous parlez d'Albert Einstein, c'est votre star, c'est votre papa. Vous avez écrit des livres magnifiques sur lui et notamment un où vous prenez une bicyclette pour nous faire comprendre tout simplement Albert Einstein. Je vous propose de l'écouter. Il va commenter la quatrième explosion atomique dans le Pacifique. C'est une archive de juillet 1946.
Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check, we must now build institutions.
De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même, nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre 1 million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore.
Alors nous venons d'entendre la voix d'Albert Einstein et j'ai appris qu'il y a 2 jours, très exactement le 9 mars à 10h, Google, dont on dit beaucoup de mal, mais quelquefois Google fait des choses formidables, puisqu'ils viennent de sortir Einstein des archives de l'Académie des sciences, et qu'on peut donc trouver des trésors sur Google. Vous êtes au courant, j'imagine,
Étienne
Klein. Oui,
il y a notamment une page qui manquait dans les travaux qu'il a fait en 1930 pour essayer d'unifier l'électromagnétisme et la gravitation. Il manquait une page, elle a été retrouvée grâce à Google.
On peut encore connaître des choses nouvelles sur Albert Einstein ?
Visiblement oui, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont connues, sans compter toutes les citations qu'on lui attribue qu'il n'a jamais dites.
Et pourquoi on lui attribue des citations de ce genre ?
Quand on dit qu'Einstein a dit ceci ou cela, ça donne à ce qu'on dit une sorte de sagesse qui vient du prestige de l'auteur supposé.
Alors vous, justement, Étienne Klein, en tant que physicien spécialisé dans la physique quantique, vous avez décidé à l'âge de 40 ans de vous orienter vers la philosophie. Ces deux passions ont continué à être très importantes pour vous. Et d'ailleurs, vous faites des livres dans les deux domaines. Et ces passions, je crois, s'éclairent mutuellement. Et elles nous permettent de mieux comprendre les avancées, les évolutions, les mises en perspective de la science et les corrélations et les conséquences de cette science. Il y a une trentaine d'années, il y avait beaucoup deux savants qui naviguaient entre les deux. Il y avait cette science reine qu'on appelait l'épistémologie. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'en philosophie, les cases sont très cloisonnées et que dans les sciences aussi, les spécialisations sont peut-être tellement difficiles à approcher qu'il n'y a plus tellement de communication. Pourquoi, à votre avis ?
Alors, il y a des raisons sans doute liées à la difficulté des sujets. Chacun se spécialise. Il y a aussi des habitudes universitaires qui font qu'on met les disciplines dans des sortes de cases et on organise peu de discussions. Maintenant, moi, je suis tout à fait conscient que la physique et la philosophie doivent être séparées. Elles le sont et c'est très bien. Elles ont des façons de questionner le monde qui sont différentes. Elles ont un rapport aux œuvres du passé qui est différent. Par exemple, un philosophe, c'est quelqu'un qui a lu au moins un peu d'Aristote, de Kant et de quelques autres. Un physicien peut être un excellent physicien sans avoir lu un seul texte d'Einstein ou de Galilée. Il connaît les théories, mais il n'a pas besoin de connaître les écrits des auteurs de ces théories. Et donc, c'est quand même des choses assez différentes. Simplement, il me semble évident que la physique fait des découvertes
d'ordre philosophique
qui correspondent à ce que Maurice Merleau-Ponty, professeur au Collège de France, appelait des découvertes philosophiques négatives. Prenez la question du temps. Les physiciens en parlent, les philosophes en parlent. Est-ce qu'ils parlent de la même chose ? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot ? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose ? Si la réponse est non, à qui devez-vous accorder du crédit ? Aux physiciens ou aux philosophes ? Et moi, il me semble qu'il y a eu des découvertes au XXe siècle, notamment avec la relativité ou d'autres choses encore, qui viennent modifier les réponses possibles qu'on peut apporter à des questions philosophiques relatives au temps. Et c'est pour ça que j'essaie de me situer entre les deux disciplines, pour faire en sorte que ce que découvrent les physiciens soit dit dans un langage que les philosophes puissent comprendre, et ensuite voir en quoi ça modifie ou non leur façon de traiter certaines questions que les physiciens abordent également.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Il est mort il y a déjà 10 ans. Il avait fait une magnifique reprise de cette chanson que nous connaissons tous de Léo Ferré. Écoutez.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare. Grâcement maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'atteignent de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va. Toute seule. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Pour devant quoi l'on se traînait. Comme traînent les chiens vois bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots de pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit du hasard. Et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard.
Mais le temps, c'est la philosophie. C'est le maître problème, c'est le problème par excellence de la philosophie. Il a tous les caractères du problème philosophique, n'est-ce pas ? Évanouissant. Et je ne trouve rien de plus beau et de meilleur que la phrase de Saint-Augustin à propos du temps, n'est-ce pas ? Quand on me demande pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Et c'est pour moi une évidence merveilleuse. Mais dès qu'on me demande ce que c'est, alors je m'embrouille. Je commence à chuchoter, à barguigner. Je ne sais plus où j'en suis. Et donc je ne peux reconnaître son évidence que de loin. Et de près, il me fuit. Mais l'axiome philosophique, c'est une évidence inévidente.
Oui.
Évidente de loin, approximativement, et redevenant évidente quand on a le dos tourné, mais inévidente quand on la regarde de près. Vous savez, c'est comme la parabole d'Animus et d'Anima, n'est-ce pas ? Quand Animus regarde par le trou de la serrure, Anima cesse de chanter. Et quand par hasard il s'éloigne, Animus, alors Anima recommence à chanter. Mais quand on ne la regarde pas, eh bien tel est le temps. Quand vous le regardez dans les yeux, alors le temps, c'est plus rien, sur les points, c'est une série, comme dans la musique dodécaphonique, c'est des allumettes que vous rangez les unes à côté des autres, ou des jeux d'enfants. Mais quand vous regardez quelle est son essence, quand vous regardez le temps dans le blanc des yeux, le temps s'enfuit.
Vous avez reconnu tout à l'heure la voix d'Alain Bashung et celle de Vladimir Yankelevitch. C'était le 8 octobre 1979 au micro de Jacques Chancel. Alors, je vais vous regarder dans le blanc des yeux, Étienne Klein. Le temps.
Mais il a tout dit là, non?
Bon, mais je sais Bashung, pas, c'est pas mal ce que vous dites aussi hein, dans votre nouveau livre.
Avec le temps, tout s'en va, sauf le temps qui est toujours là à être là. Et puis ce que dit Yankelevitch, c'est qu'en effet, le temps nous fuit quand on s'approche de lui. Pour lui dire autrement, si je vous dis une phrase qui contient le mot « temps », par exemple, « le temps passe de plus en plus vite » ou « je n'ai pas le temps », vous comprenez ce que je veux dire ?
Pas vraiment.
Si « je n'ai pas le temps », vous comprenez ce que ça veut dire. Par contre, si vous sortez le mot « temps », c'est une remarque de Paul Valéry, si vous sortez le mot « temps » de la phrase dans laquelle vous l'avez inséré, en vous demandant « mais c'est quoi cette chose que j'ai mis dans la phrase ?» Ben vous découvrez que le sens du mot vient de la phrase. Autrement dit, c'est le flux verbal dans lequel vous insérez le mot qui donne son sens au mot. Mais si vous l'extrayez de la phrase, il devient une énigme. On se demande s'il dépend de la conscience, si c'est un fluide, si c'est un être physique, si c'est une illusion, une hallucination. Et vous êtes pris de vertige. Et donc, il faut, pour clarifier ce que le langage veut dire quand il dit le mot « temps », il faut procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale.
Ben c'est pas mal, mais moi je vais prendre un exemple concret qui se trouve dans votre dernier ouvrage d'ailleurs.
C'est pas le dernier, c'est une réédition d'un ancien livre.
Ah ben alors voilà, c'est un best-seller qui est réédité. Prenons la personne qui ouvre un livre. J'ouvre un livre, je suis dans ma chambre, je sais que ça va me prendre 2 à 4 heures. Je m'imagine que je vais aller dans une fusée et je pense que la lecture de ce livre va peut-être durer 30 secondes, mais non, pas du tout. Pourquoi ?
Alors, en effet, vous parlez de la relativité d'Einstein, en fait, qui a été vulgarisée d'une façon qui l'a trahi parfois. Par exemple, dans beaucoup d'ouvrages, on dit bah, Einstein a démontré que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Alors déjà, vitesse d'écoulement du temps, on ne sait pas très bien ce que c'est, parce qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse, ça veut dire qu'il change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Ce qui est un peu bizarre. Mais passons. Comment est-ce qu'on comprend cette phrase ? La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Ben, si je suis en déplacement, par exemple, si je pars dans une fusée à très grande vitesse, disons la moitié de la vitesse de la lumière, je suis en déplacement dans l'espace. Donc d'après cette phrase, la vitesse d'écoulement du temps, pour moi, va changer. Donc s'il me fallait 3 heures pour lire un livre dans ce studio, dans ma fusée, il me faudra moins que 3 heures ou plus que 3 heures. La phrase ne dit pas dans quel sens ça varie. Et en fait, c'est pas vrai. Si vous allez dans la fusée, quelle que soit la vitesse de la fusée, si vous lisez un livre que vous avez mis 3 heures à lire dans ce studio, bah dans la fusée, un livre de même taille, vous le lirez en 3 heures. Comme le disait Galilée, repris sur ce point par Einstein, le principe de relativité dit « le mouvement est comme rien ». C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. La différence entre Einstein et Galilée, c'est que, d'après Galilée, quand vous reviendrez de votre voyage, votre montre demeurera synchronisée avec la mienne, qui suis restée ici. Par contre, Einstein dira, quand vous reviendrez, vous, de votre voyage, moi, je serai mort depuis longtemps. Ça crée une différence.
Quelle est
Mais
la
pas celle qu'on croit.
Quelle est la différence entre Einstein et Godard? Écoutez.
Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire.
Non, j'écris.
Alors, comme par hasard, c'est dans Pierrot le Fou, cette scène sublime, comme par hasard, c'est Anna Karina qui dit « je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, on pense, elle s'ennuie, le temps est trop long pour elle. Tandis que lui, le beau Belmondo, lui, le temps, il est formidable pour lui, il sera jamais assez long puisqu'il écrit.
Oui, bah Einstein s'est jamais ennuyé, hein, je crois. Einstein disait...
Mais les femmes s'ennuient ouais. rarement aussi. Ouais.
Je travaille lentement, mais je travaille tout le temps, il disait. Il avait aussi une phrase dont j'ai jamais bien compris le sens. Il disait « Je dors pas beaucoup, mais je dors vite. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, alors, ça veut dire que quand il dort, il accélère de l'énergie pour penser à son réveil.
Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Peut-être qu'il voulait dire « Je m'endors vite. » J'ai jamais réussi à clarifier ça.
Ce qui est bien avec Étienne Klein, avec vous, c'est que on a l'impression qu'on peut comprendre ce que vous écrivez, ce que vous dites, parce que vous dites que vous ne comprenez pas tout. Nous avons demandé à un philosophe de nous dire ce qu'il pensait de vous. Ce philosophe enseigne à Normale Sup. Il enseigne dans différents domaines. Il est assez incroyable puisqu'il a fait une histoire philosophique de la musique et d'autres histoires aussi. Il s'appelle Francis Wolff. Écoutez.
Concernant Étienne Klein, je ne sais pas... comment, en général, il est vu. Je sais que pour certains, Étienne n'est pas vraiment un philosophe, parce qu'il n'écrit pas des traités sur des philosophes. Je sais aussi que pour d'autres, il n'est pas vraiment un scientifique, parce qu'on ne peut pas lui attribuer des découvertes propres. Et puis, je sais que pour certains, il n'est même pas vraiment un philosophe des sciences, parce que voilà, sa pratique de la philosophie des sciences n'obéit pas au canon de cette discipline. Mais je pense personnellement qu'il a une place singulière, peut-être même irremplaçable, dans ce qu'on peut appeler le champ de la rationalité. Ce que j'aime surtout dans le travail d'Étienne Klein, c'est que non seulement il expose avec un talent incomparable des choses très difficiles, mais surtout qu'il décrit ou qu'il explique la physique non pas du tout comme un ensemble de dogmes ou de vérités, comme on le trouve le plus souvent, voilà ce qui est démontré, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on dit, etc., mais comme plutôt comme un ensemble de problèmes, toujours en équilibre instable. Et je crois que c'est en cela qu'il est philosophe et qu'il est très profondément philosophe, par cette manière d'aborder ces disciplines par leur côté problématique et questionnant. Dans son dernier livre, Étienne écrit quelque part que la devise des physiciens, ça pourrait être quelque chose comme « soyons impossibles, demandons la réalité ». Alors évidemment, ça paraît un paradoxe, une plaisanterie, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, après tout, est-ce que ce serait pas quelque chose... comme cela, non pas le monde selon Étienne Klein, mais le monde tel qu'il pourrait être vu par la physique si elle était un jour achevée, ce qui est évidemment impossible. C'est-à-dire de pouvoir voir le monde tel qu'il serait vu par personne et nulle part. Et au fond, quand je le verrai la prochaine fois, c'est la question que je lui poserai. Je ne sais pas si c'est le lieu pour dire que Étienne Klein et moi, nous avons l'intention d'écrire un livre ensemble. C'est un scoop.
Eh bien, merci pour le scoop, Francis Wolff. Donc, cette question vous est adressée, Étienne Klein.
Non, écoutez, je suis très touché d'entendre Francis Wolff.
On attend impatiemment le dialogue philosophique, en tout cas.
Je suis très touché d'entendre ce qu'il dit là. En fait, je suis d'accord avec la première partie. Je ne sais pas de me définir comme physicien ou bien comme philosophe, mais plutôt comme étant entre et en essayant de faire le boson intermédiaire entre les disciplines. Mais à propos de cette phrase qu'il a citée à la fin, en mai 68, il y avait ce slogan « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Je pense qu'en effet, les physiciens inversent la proposition en disant « Soyons impossibles, demandons la réalité ». D'abord parce qu'ils cherchent à comprendre de quoi est faite la réalité, matérielle en tout cas. Et puis aussi parce qu'il y a cette phrase d'un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré, que j'aime beaucoup, qui dit « Depuis Galilée, le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel par l'impossible ». Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Eh bien, il veut dire que les lois physiques sont des lois, comme je disais au départ, qui contredisent l'observation courante. L'exemple que prenait Coiré, c'est le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Il va en ligne droite à vitesse constante. Personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. Et donc on est invité à comprendre l'amortissement du mouvement des corps que nous observons par l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas et qu'on appelle le mouvement inertiel. Et ça va faire beaucoup réfléchir Einstein et ça va être une des voies par lesquelles il va être amené à repenser la gravitation dans une nouvelle théorie qui s'appelle la relativité générale. Et donc questionner des évidences pour montrer ce qu'elles ont de problématique, se mettre en déséquilibre, comme le dit Francis Wolff, par rapport à elle, c'est en effet un des moteurs de la pensée.
En tout cas, à travers la publication de cette réédition de ce livre consacré au temps, vous reprenez cette thématique du temps qui vous obsède depuis maintenant plusieurs décennies. Dans votre avant-dernier ouvrage, vous parlez de la nature même du temps. Je vais vous citer Étienne Klein et vous dites... Le temps pourrait émerger d'un substrat d'où il est absent. Il dériverait de concepts plus fondamentaux que lui-même. En d'autres termes, le moteur du temps serait produit de façon souterraine par une sorte d'inframonde physique. Alors là, effectivement, on est complètement fasciné. Quel est cet inframonde et quelles sont ces théories scientifiques nouvelles sur la nature même du temps ?
Vous savez, la physique, elle s'appuie sur deux piliers. La physique quantique qui décrit trois des quatre forces qui existent dans la nature, les forces nucléaires et la force électromagnétique. Et puis la gravitation est décrite toute seule dans son coin par une théorie à part qui s'appelle la relativité générale. Et en fait, on essaie de les unifier ou de trouver un cadre capable de les contenir toutes les deux pour comprendre ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Et quand on fait cela, c'est des ébauches, évidemment, c'est pas des théories achevées, c'est des tentatives. Eh bien, certaines pistes suggèrent qu'en effet, l'espace-temps pourrait être une sorte d'écume qui surnagerait sur des vagues plus profondes, une sorte de substrat qui serait porté par un inframonde créé, par exemple, d'intrications quantiques. Et donc, il y aurait un statut de l'espace-temps qui serait complètement différent de celui qu'on pense d'habitude. On pense d'habitude que l'espace-temps est une sorte d'arène qui existe de toute éternité au sein de laquelle se déroulent les phénomènes. Là, il faudrait considérer qu'en fait, l'espace-temps émerge à une certaine échelle d'un monde invisible qui ne le contient pas.
On est en pleine science-fiction. Je sais que vous adorez la science-fiction.
Je dirais pas ça. Je m'intéresse à la science-fiction qui raconte les voyages dans le temps. Et j'observe que à chaque fois, ça marche pas. C'est-à-dire que on ne raconte jamais un voyage dans le temps, mais le voyage d'un temps dans un autre temps.
Mais cette émergence de cet inframonde ne pourra jamais être cartographiée, ne pourra jamais être rendue visible, donc ne pourra jamais être perceptible. Il sera uniquement théorique.
Il y a des pistes théoriques, et un jour, on espère pouvoir trouver des expériences permettant de discriminer les différentes tentatives qui sont menées. La physique demeure une science expérimentale, donc un jour il faudra que ces conjectures soient testées d'une façon ou d'une autre par expérience.
Alors il y a un homme qui n'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre qu'il pouvait arriver à son but. Il a sans doute compris la situation extrêmement rapidement. Nous écoutons la voix de notre président de la République.
Eh bien, je veux vous affirmer ce soir, je continuerai à utiliser en même temps.
Je refuse ce dogme que pour bâtir l'égalité, il faudrait renoncer à l'excellence. Pas plus que pour réussir, il ne faut renoncer à donner une place à chacun. Le sel même de notre République est de savoir conjuguer ses exigences, oui, de faire tout cela en quelque sorte
en même temps.
Alors en même temps, ça marche encore et ça marche très très bien. Que revêt cette signification de la part de notre président qui a fait des études poussées de philosophie? Je crois que ce slogan a été très important dans sa campagne. Ça, c'était au moment où il était en campagne avant de devenir président. Mais ça a marqué et ça nous marque tous. D'ailleurs, quand on discute avec des amis et qu'on dit en même temps, on se reprend en se disant « Ouh là là, en même temps ».
Enfin, on le disait avant. Hein.
Oui, mais ça n'a plus la même signification. Absolument. Tout à fait.
Mais pour moi, c'est l'introduction, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais c'est l'introduction de la physique quantique dans le champ de la politique.
Ah bon ? Parce qu'il est aussi physicien, notre président.
Non, pas du tout, mais enfin, je ne pense pas que ce soit conscient. Mais qu'est-ce que dit la physique quantique ? Elle s'appuie sur la règle de l'addition. Si A est l'état d'une particule, si B est un autre état possible de cette même particule, alors A plus B est aussi un état possible de cette particule. Donc c'est du A plus B. Le A plus B, c'est le en même temps. C'est le chat Schrödinger, si vous voyez ce que je veux dire,
qui est à la fois.
Il est la superposition quantique d'un chat vivant et d'un chat mort. Il est un chat vivant plus un chat mort. Il est un chat en même temps vivant et mort, si on peut le dire ainsi. Et je pense que le en même temps, c'est une façon de combiner les contraires d'une façon qui n'est pas contradictoire, justement.
Donc c'est une manière d'essayer de combattre le temps.
On les associe plutôt qu'on les oppose. Et c'est sans doute une façon non clivante de proposer un discours politique. Bon, ça suscite des réactions.
Oui, on a le temps d'en discuter.
Absolument.
Mais là, hélas, le temps, nous l'avons dépassé. Étienne Klein, j'en suis absolument désolée, mais on va se quitter avec, je crois, une musique que vous adorez, B.B. King, Eric Clapton.
Ah oui.
Eh bien non, nous n'avons pas eu le temps d'écouter Eric Clapton et B.B. King. Là, c'est Kerehan Bleu.
Chambre sur rue, embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu. Nul ne voit le grand soleil qui fait briller dès le réveil ce regard bleu merveilleux, bleu amoureux qui n'ose guère. sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce
le livre d'Étienne Klein s'intitule Le temps entre parenthèses qui passe point d'interrogation et vient d'être publié aux éditions Bayard et c'est Keren Anne qui chante Bleu. Merci à Paul Percheron qui est à la technique ce soir, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert, à Jean-Baptiste Audibert et à Claire Destacan qui a réalisé cette émission.